France Musique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans France Musique est à vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et heureux de l'être. J'espère vous savoir parfaitement installé pour découvrir les suggestions des uns et des autres. Une heure et demie d'air, d'œuvres, de mouvements, de titres que vous avez choisi de nous faire partager. Allez, j'en dévoile quelques-uns. Le drame sacré Marie-Madeleine de Massenet, trop rarement joué. Un chant arménien, Maria Callas dans Les Puritains de Bellini ou encore Alexandre Tarot jouant Bach. Le reste, eh bien, nous n'en savons rien puisque c'est vous qui allez nous en faire part. Pour nous joindre, les réseaux sociaux de France Musique et notre mail francemusique@radiofrance.com. À 7h50, nous vous faisons gagner des cadeaux France Musique. Ce matin, le disque live des frivolités parisiennes, Le Diable à Paris, sous le label B-Records. Je vous pose une question, à vous d'y répondre, c'est dans 20 minutes. Deux chroniques au cœur de cette émission. À 8h, une œuvre, trois idées. Marc-Olivier Dupin nous parlera des folk songs de Luciano Berio. Et à 8h50, tendez l'oreille, Christophe Dillis a repéré dans un enregistrement de Charlie Parker une phrase composée par un professeur de clarinette du 19e siècle. Et tout de suite, la belle idée matinale de Stéphanie pour nous. Bienvenue et bon réveil, il est 7h31. Pièce spectaculaire pour se réveiller. Merci beaucoup Stéphanie. Les Cyclopes, la 8e pièce de la suite pour piano en ré majeur de Jean-Philippe Rameau, interprétée par Víkingur Ólafsson, superbe pianiste dont le dernier disque Mozart and Contemporaries vient de sortir en septembre dernier. Nous avons un répondeur pour les plus timides, les encore un peu trop endormis ou fêtards du samedi matin, les déjà au travail. Bref, vous nous envoyez vos confidences quand vous le voulez, de jour comme de nuit. Et nous les diffuserons aujourd'hui, les confidences de Louise, Pierre-Jean et Cécile, tout de suite.
Bonjour, je m'appelle Cécile. Aujourd'hui, je souhaite vous partager une œuvre d'Arturo Márquez, la Danzone numéro 2. J'affectionne particulièrement cette pièce car j'ai eu la chance de la jouer en orchestre d'harmonie et en orchestre symphonique. J'en profite ainsi pour saluer les orchestres avec lesquels j'ai pu interpréter cette pièce, l'orchestre d'harmonie du Pays de Mayenne, ceux de Mélay du Maine et de Saint-Nic-Gâtine, ainsi que l'orchestre symphonique de la Haute-Mayenne. Dédiée à sa fille Lily, cette pièce retrace le caractère de la région natale du compositeur, le Mexique, et nous fait ainsi voyager. J'espère que tout le monde pourra profiter de cette magnifique pièce pour s'évader dans ce pays chaud d'Amérique centrale et pourquoi pas faire quelques pas de danse en écoutant France Musique. À bientôt et bonne écoute.
La Danson numéro 2 d'Arturo Márquez, version pour piano et percussion. Márquez, qui est donc un compositeur mexicain, cette œuvre date des années 90 et elle s'inspire du genre du Danson, un genre musical cubain avec toutes ses syncopes. À l'instant, l'interprétation de Simon Graichi au piano, accompagné par deux musiciens de la maison, de la radio et de la musique, puisqu'il s'agit de Florent Jodelet et Emmanuel Kurt, deux percussionnistes de l'Orchestre National de France. Tout de suite avec nous, depuis la Drôme provençale, Stanislas. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans France Musique est à vous. Stanislas, vous êtes un grand passionné du chant choral amateur. Vous pratiquez ça depuis combien d'années ?
Oula, depuis la fin des années 90.
Et donc vous avez toujours chanté en chœur. Quelle tessiture avez-vous ? Êtes-vous ?
Au début j'étais baryton, en fait, plutôt baryton Martin. Puis par ici, comme il manque de ténor, on m'a fait chanter ténor. Mm-hmm. Depuis quelques années, je ne suis pas vraiment un ténor.
Vous chantez
plutôt baryton Martin, en fait, au niveau tessiture.
D'accord. Vous chantez dans quel chœur actuellement ?
Actuellement, au chœur européen de Vaison.
Et vous serez...
chœur européen de Provence.
De Provence.
À Vaison-la-Romaine. Ouais,
d'ailleurs, vous avez deux concerts, un qui sera demain en l'église de Saint-Pierre d'Avignon et un autre la semaine prochaine, les mêmes œuvres données le 19, donc cette fois-ci à Vaison-la-Romaine. Qu'allez-vous chanter d'ailleurs précisément lors de ces deux concerts ?
Alors, nous allons chanter des chants de Noël traditionnels. Et puis, pas seulement, on va chanter aussi des extraits de Magnificat, mm-hmm. qu'on a chanté cette année. Donc, Magnificat de Rother, Magnificat de Pergolèse et Magnificat de Vivaldi. Et on va chanter également trois œuvres de Gabriel Fauré, donc le Cantique de Jean Racine, c'est une œuvre de jeunesse. Mm-hmm. Le Madrigal, donc c'est un morceau de musique sur un poème d'Armand Sylvestre. Et La Pavane. Une autre œuvre. Ce sont des œuvres de Fauré parce qu'en fait, c'est un peu en prélude à notre programme de 2022. On va chanter le Requiem de Fauré.
D'accord. Alors,
Stanislas. Après, on va chanter aussi des chants provençaux classiques, Cantène Victory, donc des chants provençales.
Ah oui.
Des chants plus classiques comme L'hymne à la nuit de Jean-Philippe Rameau, Minuit chrétien, Douce nuit, Adeste Fideles, Belle nuit de Jude. Enfin, des chants de Noël classiques en français ou en provençal ou en. Essentiellement en chant français ou en provençal d'ailleurs.
Stanislas, comment vous est venue votre passion pour le chant choral amateur ?
Ça c'est le hasard de l'existence. J'avais au départ, c'était en région parisienne en fait. J'avais mon épouse qui était passionnée de chant choral et je me suis un peu greffé sur son ensemble. Donc à l'époque, elle chantait avec Christophe Kühlewein, c'était un chef allemand, qui organisait un programme où il y avait des répétitions à Saint-Cloud. Et donc, on avait une répétition par mois. Et ensuite, on avait des concerts à la fois en région parisienne et en Allemagne. Mmh. Il y avait une sorte de chœur franco-allemand. C'est comme ça que je me suis passionné là-dedans. Au départ, la première œuvre que j'ai entendue avec lui, interprétée par lui, c'était Les Vêpres de la Vierge. Donc, au cours d'une session de stage de chant choral qui durait deux semaines. Et c'est ça qui m'a donné l'envie, en fait, du chant choral. C'est surtout les stages.
Mmh. Il y a un côté familial qui vous plaît beaucoup dans ces répétitions, dans ces concerts.
Oui, tout à fait. Disons, la chorale, c'est un peu une sorte de famille de substitution. C'est vrai qu'on chante tous, on partage la musique, on chante un peu en communion avec la musique. Et on effectivement, dans les chorales, il y a des gens un petit peu de toutes origines, de toutes formations. C'est intéressant de s'ouvrir quand on travaille. On est toujours un peu cloisonné dans son travail. Et grâce aux gens chorales, justement, on peut partager, c'est un peu un rite, en fait. Il y a une sorte de substitut à la religion, même, parce que, du coup, en fait, on partage pas forcément les convictions avec des gens avec lesquels on chante, mais en tout cas, on partage l'amour de la musique sacrée.
Et vous êtes nombreux d'ailleurs à...
Et c'est vrai que ça apporte quelque chose d'agréable dans un monde où on est tous cloisonnés dans des travaux, enfin, dans des professions très, très spécialisées de plus en plus.
Ça réunit tout le monde, la musique. Et d'ailleurs, en parlant de religion, d'ailleurs, l'œuvre que vous nous proposez ce matin de Jules Massenet, Marie-Madeleine, ce drame sacré, une sorte d'oratorio, que vous avez chanté d'ailleurs sous la direction de Jean-Pierre Lauré, que l'on va entendre là, justement.
Dans les années 90, on l'avait chanté sous la direction de Lauré, l'un des deux frères Lauré, il y a Carlo et puis lui, Jean-Pierre, c'était le chef d'orchestre.
Avec l'orchestre et le chœur français d'oratorio.
Un ensemble de chorales. Plusieurs chorales à chanter des extraits de cette œuvre que j'avais trouvé sublime.
Un beau souvenir pour vous.
Pardon ?
Un beau souvenir pour vous, Stanislas.
Oui, un des nombreux. nombreux beaux souvenirs. Il y en a eu d'autres.
J'imagine.
Notamment avec des chefs comme Pierre Cao. On avait chanté l'Hurricane de Brahms avec Pierre Cao à Vézelay. C'est aussi un souvenir sublime. Il y en a beaucoup comme ça, les saisons de Haydn qu'on avait chanté avec Christophe Kühlewein. Le Carmina Burana aussi qu'on avait chanté à l'UNESCO. Et on avait chanté aussi le Requiem de Verdi à l'UNESCO, d'ailleurs.
Merci beaucoup, oui, en tout cas, Stanislas, parce que c'est vrai que vous êtes de nombreux auditeurs, auditrices, vous nous parlez beaucoup, comme ça, de ce réconfort, de ces grands moments partagés avec différentes chorales, chœurs amateurs en France. Et ça nous fait bien plaisir, en tout cas, de partager ces expériences avec vous. Et donc, nous allons savourer ce chœur d'introduction, Le Soleil et Fleurs, La Plaine, de Marie-Madeleine, de Jules Massenet, qui a été créé avec Pauline Viardot dans le rôle-titre, dirigé par Édouard Colonne. C'était en 1873. Merci beaucoup, cher Stanislas. Bon concert demain et donc dimanche à Saint-Pierre d'Avignon, merci, puis à Vaison-la-Romaine. Au revoir.
Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.
Le premier chœur, le soleil et fleurs à la plaine de Marie-Madeleine, cet oratorio de Jules Massenet, interprété à l'instant par Jean-Pierre Lauré à la tête de l'orchestre et du chœur français d'oratorio. Également François-Henri Houbard aux grandes orgues de la Madeleine. Ce disque d'ailleurs est le premier enregistrement mondial de cette œuvre de Massenet, Marie-Madeleine. Mais ne serait-il pas l'heure de jouer tout de suite? Ben oui, il est 7h57. Pour participer, l'onglet « Contactez-nous » à la page de notre émission « France Musique est à vous » sur notre site. Votre réponse à la question ainsi que vos coordonnées complètes, s'il vous plaît, à gagner ce matin en partenariat avec France Musique, le disque live des Frivolités parisiennes « Le Diable à Paris ». Paru sous le label B-Records, Frivolité parisienne en spectacle justement Cole Porter in Paris au Théâtre du Châtelet à Paris dès aujourd'hui jusqu'au 1er janvier. Et ils seront aussi, mais ils sont partout décidément et tant mieux, ce lundi 13 à 20h dans 42e rue Fesson Chaud depuis le studio 104 en direct sur France Musique, la comédie musicale sur son 31. Il y a beaucoup de chiffres dans cette phrase, hein, décidément. Un événement mené par Laurent Vallière et son équipe à ne pas manquer donc lundi à 20h. Alors la question enfin pour gagner ce disque des Frivolités parisiennes. Une question d'histoire musicale. De quand date la toute première comédie musicale au monde ? De quand date la première comédie musicale ? S'agit-il de 1866, 1912 ou 1931 ? 1866, 1912 ou 1931 ? Je dévoile la bonne réponse en fin d'émission, juste avant 9h, et le nom des gagnants. Onglet « Contactez-nous ». Il accueille vos réponses si vous êtes d'humeur joueuse, évidemment. L'orchestre du théâtre Kirov, dirigé par Valérie Gergiev, dans cette danse du sabre d'Aram Khatchatourian pour les 80 ans de Nicole, un cadeau à elle-même, mais que nous partageons ensemble. Oui, on est comme ça. Dans France Musique est à vous, je l'ai découverte à l'âge de 8 ans, nous dit-elle, elle me va droit au cœur, les notes résonnent dans mes neurones à jamais. France Musique est à vous, à tout de suite pour la suite de votre programmation musicale, avec dans quelques instants également la chronique de Marc-Olivier Dupin.
Carrefour de la création, le dimanche, de 20h à minuit 30, France Musique.
De la création, des archives, des portraits de compositeurs, des débats, des concerts, de l'improvisation, de l'électronique, le Carrefour de la création, c'est votre soirée contemporaine. Uniquement des compositeurs vivants, l'actualité de toutes les esthétiques, le dimanche soir, de 20h à minuit et demi, sur France Musique et francemusique.fr.
Il est 8h02. Merci d'écouter France Musique au réveil. Ravi de vous accompagner et d'accueillir vos suggestions musicales. Une grande famille partout en France et à l'étranger avec vous toutes et tous. Tout simplement envahis par la musique. Vos émotions d'abord plutôt que de la grande musicologie. Vos idées tellement originales, précieuses, curieuses, étonnantes que nous recherchons au sein de l'immense discothèque de Radio France. Alors allez-y, des vinyles, des archives, des disques récents ou des vieilles interprétations. À vous de nous dire ce que nous écouterons donc d'ici 9h à 8h50. La chronique de Christophe Dillis à propos d'une petite phrase trouvée dans un enregistrement de Charlie Parker. Tendez l'oreille donc en fin d'émission. Et puis tout de suite, la chronique de Marc-Olivier Dupin. Une œuvre, trois idées.
Une œuvre, trois idées, Marc-Olivier Dupin.
Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Gabrielle.
Aujourd'hui, nous plongeons dans le folklore et pas n'importe lequel, les folk songs de Luciano Berio.
Oui, Gabriel, pour vous qui aimez beaucoup Luciano Berio, voici un extrait d'un des mouvements de ses folk songs qui s'appelle Ballo, qui est interprété par Cathy Berberian.
Faites bien plaisir et cette voix de Cathy Berberian. Alors, Marc-Olivier, quelle est votre première idée sur ce cycle de mélodies ?
Alors, la première idée a trait à la passion des compositeurs pour le folklore. Alors, le vrai folklore ou le faux folklore ? Berio a composé ce cycle de 11 chants à différentes périodes de sa vie et l'œuvre a été créée en 1964. Et les sources en sont bien diverses. Chaque pièce s'inspire plus ou moins directement d'un chant de tradition orale. Ainsi, deux d'entre elles sont empruntées au chant d'Auvergne de Canteloube, lui-même grand recycleur des musiques de tradition orale française. Voici un extrait de Malurusco un feno, pardon pour la prononciation, Berio.
Malheureux qu'on nous fait nous, malheureux qui nous fasse, malheureux qu'on nous fait nous, malheureux qui nous fasse, qui nous casse non beau ou nous, qui non bouffa. Tra da ra la deri da re ro, la da re la deri da ra, tra la 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 deri da ri ro, la da re la deri da ra.
Mais tous les compositeurs n'ont pas nécessairement la rigueur de Béla Bartók ou de Zoltán Kodály dans leur approche ethnomusicologique des traditions orales. Ainsi, Brahms, dans ses 21 danses hongroises, mélange vrai et faux folklore pour notre plus grand bonheur. D'ailleurs, pour l'anecdote, on entend toujours les 5 premières de ces danses hongroises alors qu'elles sont toutes magnifiques. Gabriel, si vous avez des cadeaux à faire à Noël, les 21 danses hongroises et pas seulement les 5 premières. Mais revenons au faux folklore de Brahms avec sa 19e danse hongroise, ici interprétée par le très émouvant et bouleversant Leonid Kogan.
Après Brahms, il faut revenir à Berio. Quelle est votre deuxième idée sur les folk songs ?
Alors, Berio est fasciné par la relation de la musique au langage. Passionné par la linguistique, il cherchera en permanence à réinventer cette relation. Comme par exemple dans sa sequenza pour trombone, composée en hommage au clown Grock, qui faisait tout un numéro qui mêlait sa voix au son du trombone pour arriver au son « why », pourquoi en anglais. Alors, à l'inverse, dans sa sequenza pour voix, nous basculons dans un véritable bal des phonèmes qui va à la rencontre d'une écriture instrumentale débridée.
Alors, votre troisième idée, tout de suite. Marc-Olivier.
Comme on l'a entendu d'ailleurs dans ces exemples, la voix vers l'instrument va vers l'instrument et l'instrument va vers la voix. Mm-hmm. C'est absolument formidable.
Et c'est Berlioz donc.
Et c'est Berlioz. Alors, oui. La troisième idée, c'est liée aussi toujours à cette question du langage, la virtuosité de Berlioz dans l'utilisation de la citation, de l'adaptation, du collage, du patchwork. Ce que Berlioz amorce dans les folk songs sera poussé à l'extrême dans sa Symphonia. Rarement l'illusion du désordre n'aura été aussi génialement organisé par un compositeur. Dans le troisième mouvement, dirigé par Pierre Boulez, l'Orchestre National de France et les Swingle Singers sont pris dans une déferlante, une ivresse de mots et de sons. The fact is, I trouble no one, but I did. And after each group disintegration, the name of Mayakovsky hangs in the clean air.
Berlioz, là, dans la Symphonia, le troisième mouvement qui d'ailleurs s'inspire de Mahler. Berlioz lui rend hommage, là.
Oui, il y a beaucoup d'autres citations d'ailleurs.
Autres, ouais, oui. Mais particulièrement dans ce troisième mouvement. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Ça donne envie d'écouter les folk songs de Berlioz en entier. Pourquoi pas d'ailleurs. Peut-être qu'un auditeur, une auditrice va nous le proposer. Très bonne semaine, bon week-end.
Merci, à vous aussi.
Évidemment, une œuvre, trois idées est à réécouter sur notre site francemusique.fr, à retrouver et puis à également réécouter sur l'appli Radio France. Bon week-end.
Bon week-end.
France Musique est à vous, Gabriel Olivera Guyon. Thank you.
La suggestion de Pierre à l'instant, si douce, l'adagio du concerto en ré mineur BWV 974 de Jean-Sébastien Bach, là tout seul, donc pour piano, d'après un concerto pour hautbois d'Alessandro Marcello, et c'était donc Alexandre Tarot qui vient justement de sortir un très beau disque Schubert récemment. Pierre nous dit « La musique me tient compagnie, même en ce moment, alors que je bricole dans la maison de mon fils, ma petite radio est branchée toute la journée sur France Musique, je savoure avec plaisir toutes vos émissions. » Merci pour votre mot, Pierre. Bon week-end avec votre fils. 8h13, chez lui aussi, peut-être pas en train de faire des travaux, en tout cas en Suisse, à Lutry précisément, Charles-Édouard. Bonjour.
Bonjour, Gabriel.
Bienvenue dans France Musique est à vous. Alors, vous êtes tout près du lac Léman et vous êtes retraité. Que faisiez-vous quel était votre métier, Charles-Édouard?
J'étais enseignant, j'enseignais les sciences naturelles à l'établissement secondaire d'Aigle, dans la plaine du Rhône.
Et aujourd'hui, vous êtes toujours passionné par la nature, en tout cas la biologie. Qu'est-ce que vous faites de vos journées?
Je fais très peu de biologie actuellement. En revanche, je suis toujours aussi passionné par le chant choral et par la musique. J'ai France Musique qui tourne en boucle toute la journée dans ma maison.
Ah oui, vous êtes un grand fidèle.
Oui, tout à fait.
Et vous disiez aussi être passionné de bateaux à vapeur de la Belle Époque.
Bien sûr, parce que nous avons sur le lac Léman, le lac Léman, et non pas le lac de Genève, s'il vous plaît. Le lac Léman.
J'ai dit le lac Léman.
Les plus beaux bateaux à roues qui puissent exister en Europe.
Ah, d'accord. Il y en a beaucoup?
Eh bien, la société de navigation en possède 8, dont 7 sont aptes à naviguer.
D'accord. Et donc, vous y allez parfois? Vous allez parfois dessus?
Alors, vous naviguez? Je vais très fréquemment dessus en été, lorsque ces bateaux sont en circulation et sont à l'horaire, bien sûr. Avec la possibilité d'y manger délicieusement.
Alors, Charles-Édouard, si on parle musique, vous êtes donc grand amateur de chant choral, comme Stan tout à l'heure, Stanislas, que nous avons eu au téléphone en début d'émission. Et là, aujourd'hui, vous vouliez nous parler d'un chant traditionnel arménien.
Alors, c'est votre équipe magnifique qui a découvert ce chant traditionnel arménien. Je connais personnellement le chœur des Little Singers of Armenia, dirigé à excellence par... mon ami le maître Tigran Hekekian, que je profite de saluer ici.
C'est eux que nous allons écouter.
Voilà.
Ce sont eux. Dans un chant arménien. Vous avez déjà voyagé en Arménie?
Je n'ai jamais voyagé en Arménie, mais j'aimerais saluer à ce propos mon ami Petros Pierre-Alain Beffa, qui est lui la cheville ouvrière de la tournée qu'avaient fait les Little Singers en 2016, avec qui je me suis fait beaucoup d'amis.
Très bien, bah on salue tout ce beau monde et donc nous allons écouter cet air traditionnel arménien effectivement que nous avons trouvé grâce aux équipes merveilleuses de la discothèque de Radio France. Merci Charles-Édouard.
Merci Gabriel et bonne journée à tous.
À très bientôt, bon week-end.
Merci pareillement.
Saren Kouka, un chant traditionnel arménien interprété par l'ensemble Little Singers of Armenia, dirigé par Tigran Ekekian. Une suggestion donc de Charles-Édouard. Vous êtes nombreux à nous écrire en direct pour nous proposer, vous aussi, vos idées musicales que nous partageons donc tous les samedis entre 7h30 et 9h. Victor à Montévrin, Jean-Michel à Saumur, Chantal à Grenoble, Patricia à Cannes, Martine à Poitiers ou encore Cyril à Immonville-Lantefontaine. Merci beaucoup, ça nous fait chaud au cœur. En tout cas, tout à l'heure, à 16h, il y aura l'émission Génération France Musique, le live. Carte blanche au pianiste Jonathan Fournel avec ses amis, plusieurs musiciens, y compris Florian Noack, l'ensemble Tarantule ou encore Stefan Martenson. Et nous continuons donc avec vos propositions, celle-ci sur Instagram de Thuyane, qui nous écoute à Anthony, qui espère pouvoir travailler la sonate pour clarinette opus 120 numéro 1 de Brahms. Elle espère la travailler très bientôt avec sa professeure de musique de chambre, une grande Brahmsienne, nous dit-elle, Dalia Adamopoulos. Si elle se reconnaît, bonjour à vous. Et voici Brahms. Thank you. France Musique à l'instant, le clarinettiste Florent Pujuila et le pianiste Éric Lesage dans le troisième mouvement Allegro Grazioso de la sonate pour clarinette et piano en fa mineur, l'opus 120 numéro 1 de Johannes Brahms. Alors à 8h25, nous allons rester dans la même sphère musicale, la même époque, mais aussi dans les liens humains parce que Schumann, que nous allons écouter tout de suite, Clara comme Robert d'ailleurs, et Brahms étaient très proches. Et nous les retrouvons donc dans cette émission, un peu par hasard, grâce à vos suggestions, avec, il se trouve que c'est un hasard, mais le même pianiste, Éric Lesage. La suite donc, c'est Schumann, ça je vous l'ai dévoilé. Mais d'abord, nous allons écouter le message de Pierre-Jean.
Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Jean, et la pièce que je vous propose de découvrir ce matin est un Lieder extrait des Dichterliebe de Schumann sur des poèmes de Heinrich Heine. Ici, nous avons le septième Lieder, Ich grolle nicht, qui veut dire « je te pardonne » ou « je ne te maudis pas ». Je l'ai découvert durant mon cours d'analyse au conservatoire de Versailles, où je fais mes études actuellement. Tout de suite, je suis tombé amoureux de ce Lied en l'écoutant, avec des accords martelants jusqu'à la fin du morceau, des basses qui descendent et semblent ne jamais s'arrêter, mais aussi la tonalité de Do majeur, qui a une dynamique généralement forte et qui paraît plutôt inattendue par rapport au texte. Je cite « je ne te maudis pas, même le cœur brisé ». Je l'ai bien vu en rêve, j'ai vu l'ombre qui remplit ton cœur et le serpent qui l'empoisonne. J'ai vu, mon amour, ton désespoir infini. Nous allons écouter la magnifique version de Prégardien, accompagnée par Éric Lesage. Merci à Monsieur Crédit pour la découverte de ce morceau. Bonne écoute.
Court poème de Heinrich Heine, mis en musique par Robert Schumann, le septième Lied des Dichterliebe, les amours du poète, à l'instant, Ich grolle nicht, je ne t'en veux pas, même si mon cœur doit se briser, amour perdu à jamais, je ne t'en veux pas. La version, comme désirée par Pierre-Jean qui nous a laissé un message, Julien Prégardien, pardon, ténor accompagné par Éric Lesage au piano.
Gabriel Olivier Aguillon, France Musique est à vous.
Bonjour Michel.
Bonjour Gabriel.
Bienvenue, vous nous appelez de la Meuse, vous avez 58 ans et évidemment vous êtes passionné par la musique. Êtes-vous vous-même musicien, Michel ?
Non, malheureusement j'ai fait quelques essais quand j'étais adolescent pour jouer de la guitare, puis après du violon, mais bon, j'ai pas poursuivi. Par contre, j'aime beaucoup écouter la musique, effectivement.
Un peu tous les styles musicaux ?
Un peu tous les styles musicaux. Quand j'étais petit, mon père écoutait beaucoup d'opérettes, de musique classique. Maman écoutait Jacques Brel. Et puis avec le temps, je me suis affiné, j'ai diversifié. Et ça aussi, entre le classique et puis la variété, on va dire. Et puis le jazz, voilà.
Mmh. Ce matin, vous nous avez proposé d'écouter le concerto italien de Jean-Sébastien Bach, interprété par Andras Schiff. Vous hésitiez entre deux versions parce que vous écoutez souvent celle de Glenn Gould, c'est cela ?
Oui, c'est ça. Je connais en fait ce morceau par Glenn Gould parce que j'ai pas mal de disques de Glenn Gould dont je suis vraiment tombé amoureux il y a 25 ans en regardant sur Arte. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce fou là qui joue et qui chantonne en même temps. Et du coup, la version de Schiff, je la trouve sympa justement parce qu'on n'entend pas le Glenn Gould chantonner derrière.
Oui, il n'y a pas Glenn Gould derrière Andras Schiff.
Voilà, exactement.
Michel, vous êtes aussi passionné de vélo. Vous écoutez la radio en pédalant?
Absolument pas. Quand je fais du sport, j'écoute pas la radio ni la musique, mais par contre, je l'ai dans ma tête. Donc, de temps en temps, je me remémore un morceau, puis je me le rejoue, on va dire, en replay dans mon cerveau, quoi. Voilà.
Vous allez au travail à vélo, que faites-vous dans la vie?
Dans la vie, je travaille dans une administration à la préfecture de la Meuse, et je m'occupe actuellement du contrôle qualité.
Très bien. Alors, contrôleur de gestion à la préfecture de la Meuse, passionné par Jean-Sébastien Bach, Andras Schiff. Comment vous l'avez connu, ce concerto? Justement au disque par Glenn Gould ou en concert ou dans d'autres circonstances?
Non, effectivement, je l'ai connu au disque par Glenn Gould essentiellement. Et j'ai trouvé cette version vraiment très, très, très enjouée, très colorée, musicale. Ça dénote un peu des autres versions, des autres morceaux de Jean-Sébastien Bach joués par Glenn Gould. Je trouve que c'est... Bon, j'aime bien c'est la coloration, l'émotion qui est dégagée par ce morceau.
Nous allons écouter ce matin l'Allegro, la première partie de ce concerto italien, qui en fait n'est pas un concerto comme on l'entend nous aujourd'hui, c'est-à-dire un soliste accompagné par tout un orchestre. Mais quand même, cette pièce est en forme de concerto. Il y a un dialogue qui se fait en fait surtout sur les nuances, piano et forte du clavier. Ça implique à l'époque un instrument, un clavecin à deux claviers. Là, nous allons l'écouter au piano par Andras Schiff, mais en tout cas, voilà pour l'histoire de cette œuvre qui a été publiée en 1735, donc de Jean-Sébastien Bach. Un grand merci, Michel, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Très bon week-end et à bientôt dans l'émission. Merci. Vous revenez quand vous voulez.
Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.
Vous aussi. Thank you. pianiste Andras Schiff dans l'Allegro du concerto italien en fa majeur BWV 971 de Jean-Sébastien Bach. Andras Schiff qui sera l'invité de Jean-Baptiste Urbain la semaine prochaine dans Musique Matin le 17 décembre à l'occasion de son récital à la Philharmonie de Paris. Le lendemain, Bach, le clavier bien tempéré, le livre 2 précisément, mais tous les concerts ne sont pas à Paris. Heureusement, Dominique nous informe quant à elle d'un concert qui sera donné vendredi prochain également, le 17, en l'église de son petit village de Saint-Ans-le-Vieux dans le territoire rouennais. Un beau cadeau, nous dit-elle, que font de jeunes musiciens qui viennent tout spécialement d'Albi, de Suisse et de Paris, Céline Burnichon, Victoria Jung et Hector Burgan. Je tenais à vous en faire part, nous dit-elle, car dans nos petits villages de province, nous sommes un peu oubliés. Mais non, cher Dominique, voilà. Merci de nous avoir écrit et bon concert à vous. Un autre moment musical à vous annoncer, c'est tout à l'heure, cet après-midi, une attaque de pirates au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. Un spectacle musical qui mêle musique, théâtre, danse et vidéo de Dylan Corley avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Parfait pour votre petite famille à partir de 7 ans. Rendez-vous donc à la radio à 14h30 et 17h pour ces concerts. Tout de suite, un troisième message vocal, celui de Louise.
Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Louise Sedge, je suis étudiante en chant lyrique et aujourd'hui j'aimerais vous faire découvrir un air dont je ne me lasse pas. Il s'agit de l'air de la folie d'Elvire, extrait de l'opéra Les Puritains de Bellini. Alors pourquoi un tel nom d'air de la folie? Eh bien car à ce moment-là de l'intrigue, suite à un malentendu, le personnage d'Elvire se croit trahi par l'homme qu'elle aime et est alors frappé par un épisode où la raison et la foi la quittent pour laisser place à un état de folie passagère. Musicalement, on entend ça par un premier passage lent et désespéré d'imploration « Oh, rendez-moi l'espoir ou laissez-moi mourir !» Puis Bellini marque le tournant à partir duquel la folie prend le dessus par une cabalette vocalement hors norme, pleine de vocalises déraisonnées et de suraigus, une véritable démonstration de ses compétences vocales pour la cantatrice, qui est dans cet enregistrement nul autre que la merveilleuse Maria Callas. En résulte un super cocktail d'émotions pour nous, les auditeurs, mais pas d'inquiétude, tout se finit bien pour notre Elvire, qui retrouve finalement son bien-aimé, et par la même occasion, la raison. Très bonne écoute sur France Musique.
Thank you.
Sur France Musique, la voix de Maria Callas avec Rolando Panerai, baryton, également la basse Nicola Rossi-Lemeni dans cette ère d'Elvira et le duo Riccardo Giorgio de l'acte 2 di Puritani, les Puritains de Vincenzo Bellini. Ces chanteurs étaient accompagnés par l'orchestre du théâtre de la Scala de Milan, dirigé par Tullio Serafin, un enregistrement de 1953. Je souhaite le bonjour à Mathilda, à Cessin, ainsi que Daniel à Mélan, qui vit lui aussi dans l'Isère. Et tout de suite, à 8h49, c'est la chronique de Christophe Dillis qui vient de s'installer à mes côtés. Tendez l'oreille.
France Musique. Tendez l'oreille. Christophe Dillis.
Bonjour Christophe.
Bonjour Gabriel.
Vous allez parler de jazz aujourd'hui apparemment par la petite porte.
Effectivement, par la petite porte parce que en jazz comme dans les autres styles de musique, ce qui est bigrement intéressant en plus du moment du concert, c'est d'entendre la préparation, les coulisses, les répétitions. Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelque chose qui nous renseigne beaucoup sur l'artiste, c'est de l'entendre travailler son instrument. Là, je vais vous faire écouter un document unique, extrêmement rare, Charlie Parker, un des inventeurs du bebop, ce style au début, un débit extrêmement rapide et virtuose sur des gammes plutôt complexes, en train de travailler son saxophone. Nous sommes à la fin de sa vie, fin 54, début 55, dans l'appartement de Dick Meldonian à New York. On va l'écouter en entier, ça dure 1h42, et puis on va voir ce qu'on va en tirer.
Thank you.
Fascinant, hein?
Oui.
Charlie Parker, en plein travail, on ne va pas tout décrypter, mais on a quand même un aperçu de sa méthode de travail. Il commence avec ce qu'on fait tous quand on prend l'instrument pour le chauffer. On joue des trucs qu'on connaît bien. Et lui, il fait ça, il joue des traits qu'il a sous les doigts, qu'il enchaîne avec énormément de facilité. Certains reconnaîtront d'ailleurs un passage de Blues for Alice. Voilà. Et puis tout à coup, on l'entend jouer quelque chose qui ne sonne pas du tout bebop.
C'est vrai qu'on dirait un exercice classique, une étude ou...
Bah vous ne croyez pas, vous ne croyez pas si bien dire. J'ai fait mes petites recherches et je suis tombé sur la 23e étude pour saxophone de Hyacinthe Closet. Pour la petite histoire, Hyacinthe Closet était professeur de clarinette à Versailles, puis au Conservatoire de Paris au 19e siècle. Il était également clarinette solo de l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, professeur de Charles-Frédéric Selmer et ami de Louis-Auguste Buffet. Et ça sonne comme ça. Alors je vais vous repasser le Closet joué par Charlie Parker et écoutez bien ce qu'il en fait. Il met des accents à contre-temps, il décale les appuis de cet exercice classique, il va faire ta-ta-ta-ti-ta-ta-ti-ta, puis il le joue plus vite et là on comprend tout. Sa virtuosité dans le bebop a une assise profonde dans le travail rigoureux et discipliné de l'instrument. Il transforme l'exercice d'un professeur du Conservatoire de Paris au 19e siècle en phrase bebop.
C'est génial.
Et enfin, il termine comme on fait tous, en jouant des gammes dans tous les tons.
J'ai toujours pensé que cela devait être très propre, très précis, aussi propre que possible dans tous les cas. Pour le public, pour leur donner à entendre quelque chose qu'ils puissent comprendre, quelque chose de beau. J'ai beaucoup étudié le saxophone, c'est vrai. En fait, les voisins ont menacé de demander à ma mère de déménager. Elle m'a dit que je les rendais fous avec le saxophone. Je travaillais au moins 11 à 15 heures par jour.
Ha ha ha! Et voilà, peut-être que je me trompe, peut-être que je n'avais pas besoin de déblayer ce cliché qui n'existe peut-être pas, mais au cas où, je le dis, les instrumentistes de jazz bossent énormément. On connaît peut-être un peu plus la discipline de travail des instrumentistes classiques, mais celle des jazz people est tout aussi exigeante. Elle n'est pas du tout déconnectée de la discipline classique. Ça ne fait pas de mal de temps en temps, jazz ou pas, pour nous autres, de se rappeler que les dieux des instruments sont aussi des humains qui travaillent.
Merci beaucoup Christophe Dilly. Vous avez commencé votre chronique par le mot bigrement. Et rien que pour ça, je suis très heureuse de vous connaître en fait.
Bigrement, c'est vrai qu'on ne le dit plus trop sur les ondes.
Alors pour revenir au bebop, vous aviez justement déjà fait une chronique sur le bebop, expliquée à un musicien classique. C'est à réécouter à la date du 6 mars 2021. Vous avez pris la trompette.
J'avais pris la trompette et des amis.
Et des amis. Bon, à réécouter. Et évidemment, celle-ci, tendez l'oreille sur cet enregistrement de Charlie Parker des années 50, est à retrouver sur notre site francemusique.fr et à réécouter sur l'appli Radio France. À samedi prochain.
Bonne semaine.
Merci, bon week-end. Merci à tous vos messages, chers auditeurs, auditrices de France Musique, et à vous qui nous arrivent pour vos suggestions en direct. Myriam qui veut écouter Edvard Grieg en imaginant le soleil se lever dessus, par-dessus les collines et les bois. Et puis également Pierre à Toulouse, ainsi que Daniel à Aurillac. Merci beaucoup pour toutes les suggestions de ce jour. Ainsi s'achève notre émission. France Musique est à vous. Merci à toute l'équipe. Élise Lejeune, Lisa Crépy, Nicolas Bichet, Françoise Cordet à la réalisation. Avec nous ce matin à la technique, Emmanuel Rose et Cindy Le Grumelec. À notre question de ce matin, il fallait répondre 1866, la date de la toute première comédie musicale dans le monde. Il s'agit de The Black Crook, merci pour vos réponses nombreuses. Et bravo à Salah à Saint-Germain, Fabienne dans le Pas-de-Calais ou encore Bernard à Pontarlier.
À réécouter sur francemusique.fr.